Merci de cet exposé qui nous apprend beaucoup sur la question évidemment du moderne, donc qui est complexe, puisque là il s'agit vraiment du recyclage de procédés anciens et donc dans une volonté en même temps, on le voit bien, d'uniformisation, à la fois de normalisation, de simplification et donc d'unification en effet. Alors il y a Le Corbusier, on en a parlé évidemment depuis ce matin, et là à nouveau avec les fameux murondins, j'ai appris quelque chose, le mur et les rondins, hein. Il va en être à nouveau question maintenant, moins peut-être sous l'angle de, disons, de l'architecture de la construction, que des entreprises littéraires de Le Corbusier. Guillemette Morel Journel, donc vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Et évidemment, on entre dans une zone sensible, puisque dès qu'on parle de Le Corbusier maintenant, en ce moment, on l'a bien compris, donc c'est un problème. Donc vous allez nous aider à...
Merci beaucoup. Je voudrais remercier également Jean-Louis Cohen et le Collège de France, car c'est un vrai plaisir de voir que l'architecture trouve enfin une place dans cet éminent lieu de partage du savoir. Comme il n'y a pas de problème et que des solutions, je m'intéresserai ici à un aspect particulier de la question qui nous occupe aujourd'hui. En l'occurrence, l'édition de livres d'architecture en France entre 40 et 45, et plus particulièrement les travaux de Le Corbusier. On pourrait juger ce sujet un peu marginal, il l'est d'ailleurs en termes quantitatifs, puisqu'il concerne finalement un peu moins d'une vingtaine d'œuvres. Il me semble qu'il fournit pourtant un point de vue décalé et que j'espère stimulant sur la période. Je procéderai d'abord à un rapide état des lieux, qui sera d'autant plus rapide que les 10 lieux sont plutôt déserts, et j'aborderai ensuite la production de celui qui est donc le protagoniste principal de ce récit, Le Corbusier. Tout le monde connaît l'adage « quand le bâtiment va, tout va ». S'agissant de l'édition, cela pourrait donner « quand le papier va, tout va ». Or, on vient de nous parler beaucoup de pénurie, et comme vous le savez, l'édition d'architecture dans la France de Vichy ne satisfait à aucune des affirmations concernant soit le bâtiment, soit le papier, puisqu'il n'y a en fait plus ni contenu, les édifices à commenter, ni contenant le papier. Ces conditions de l'édition durant la guerre ont été suffisamment décrites pour que je n'y revienne pas, mais je citerai simplement quelques chiffres donnés par Pascal Fouché dans l'édition française sous l'occupation et qui parlent par eux-mêmes. Le poids de papier qui a été consommé par mois pour la publication de livres et non de presse, ce poids passe de 3500 tonnes en 1938 à 500 tonnes en 1942 et 134 tonnes en 1943, ce qui veut dire que le nombre de volumes imprimés a donc été divisé par 10 en seulement 4 ans. J'évoquais un tour d'horizon que je ferai concernant les éditeurs qui avaient des titres sur l'architecture. Il sera assez rapidement fait, je l'ai dit, et il comporte deux étapes principales, en dehors des petites maisons qui, à la marge de la discipline architecturale, peuvent accueillir quelques ouvrages d'histoire de l'art ancien ou concernant l'architecture traditionnelle, qui, on l'a vu, est un sujet très important sous Vichy. Il s'agit, dans un premier temps, des éditions Picard, qui, à l'époque, publient une vingtaine de titres par an, plutôt d'ailleurs centrés sur l'archéologie ou la bibliophilie. Entre 40 et 44, elle ne publie à ma connaissance qu'un seul titre en 43, mais ce titre est d'importance à deux titres. D'une part par son auteur dont Antonio Bruchilleri nous a parlé ce matin, Louis Hautecoeur. D'autre part par son sujet, qui est en l'occurrence traité de manière très érudite. Il s'agit de l'architecture classique française. Tout cela prend la forme de deux volumes qui font de grands formats, qui comptent en tout à peu près 1000 pages, ce qui, vous en conviendrez, en une période de disette de papier, représente un investissement absolument énorme. Je rappelle juste qu'Hautecoeur avait signé en 1941 un autre ouvrage plus modeste sur cette question. Autre deuxième maison d'édition qui est concernée par les livres d'architecture, sur un domaine un peu décalé, puisqu'il s'agit essentiellement d'ouvrages techniques et qu'elle traite aussi de questions qui vont de l'astronomie à l'agriculture en passant par l'alimentation, la maison Duneau, qui... Ah, non, là, j'ai un problème... Oui, ben désolé, il y a quelque chose qui a sauté. La maison Duneau, qui, en dehors d'agenda annuel du bâtiment et des travaux publics, publie trois titres qui sont plutôt orientés sur l'urbanisme. Deux, en 1941, La charte de l'urbanisme par André Guton, futur professeur à l'École des Beaux-Arts, et les volumineux problèmes d'urbanisme de Gaston Bardet, dont il a déjà été question, qui est par ailleurs un membre du comité de rédaction de l'architecture française, la revue qui publie à partir de 1940 et qui représente un peu la voix officielle de la profession. Enfin, il y a un petit volume d'André Boll, intitulé « Habitation moderne et urbanisme » qui paraît en 1942 et sur lequel je reviendrai. Je me dois de signaler toutefois, avant de passer au vif du sujet, un cas particulier qui est celui du succès qu'aura remporté une publication faite en 1941, l'histoire de l'architecture par Jean-Charles Moreux, autre contributeur de la revue L'architecture française, qui paraît donc l'année même de la création aux presses universitaires de France de la célèbre collection Que sais-je, et qui connaîtra 13 réimpressions et rééditions. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Alors, dans ce contexte éditorial difficile, une note de Michel Léris dans son journal du 16 février 1941 me semble parfaitement caractériser ce qu'il en est de Le Corbusier. Il s'interroge sur, je cite, « cette vraie maladie des « gens de lettres », entre guillemets, qui ne conçoivent pas la possibilité de se taire et pour qui ne pas publier équivaut à une espèce d'anéantissement. » Il se trouve que, certains d'entre vous le savent, la carte d'identité à l'époque de Le Corbusier porte comme mention de profession celle d'homme de lettres, puisqu'il ne pouvait pas porter le titre d'architecte. Et au début de la guerre, Le Corbusier a déjà, n'est pas du tout un nouveau venu dans le monde de l'édition, puisqu'il a déjà signé une bonne douzaine d'ouvrages, notamment ceux qui font partie de la collection de l'Esprit Nouveau, mais d'autres encore, ce n'est pas le lieu de les présenter. Ce qu'il faut remarquer néanmoins, c'est que la plus grande part de cette œuvre publiée l'a été chez des éditeurs assez pointus, relativement confidentiel, comme en particulier Georges Cray, ou spécialisé d'un point de vue professionnel, comme les éditions de l'architecture vivante et celles de l'architecture d'aujourd'hui. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'avec la guerre, la stratégie d'occupation du terrain éditorial de l'architecte va changer radicalement. Désormais, pour lui, il s'agit de partir à l'assaut de maisons généralistes, si possible les plus prestigieuses d'entre elles. Et il y parviendra. Entre 1941 et 1945, il ne sort pas moins qu'un titre chez Gallimard, deux chez Plon et deux chez De Noël, sans compter des petits opuscules que je vais présenter. En outre, deux autres titres, pourtant entièrement écrits et mis en page, n'ont pu paraître. Cela fait tout de même une production donc de 9 livres en 5 ans. C'est que l'architecte et peintre est un polygraphe infatigable et que son activité littéraire est d'autant plus intense que la période que nous considérons n'est pas propice à l'architecture, ni même faute de fourniture, à la peinture. Ajoutez à cela les nombreux déplacements qu'il accomplit entre Paris, Ozon, Vézelay, Alger et Vichy, où il séjourne en pointillé durant 18 mois, et vous comprendrez que l'écriture est un format idéal pour un hyperactif comme lui. Pour simplifier l'organisation de ma présentation, je vais procéder de manière chronologique en cherchant de parution, en cherchant à mettre en lumière les continuités que Le Corbusier établit entre d'un livre à l'autre et aussi les relations et les réseaux qu'il parvient à tisser dans le monde de l'édition française en général. Les premières parutions ne voient le jour qu'en 1941. Le Corbusier est alors âgé de 54 ans. Mais l'écriture du livre que l'on voit ici remonte à 1939, sur les quatre routes. Je m'y arrête un peu car il s'agit d'un cas assez inédit et donc intéressant à ce titre, de collaboration littéraire entre un auteur et son éditeur. Le Corbusier s'est en effet tourné vers Jean Paulhan, directeur de la NRF, qu'il avait croisé dans différentes occasions mondaines et professionnelles depuis le début des années 20. On voit ici Paulhan dans le jardin de la Villa Church que Le Corbusier venait d'aménager dans les années 30. Le Corbusier lui écrit le 17 janvier 1940. « J'ai sur ma table deux lettres de vous, jaunies par le soleil et l'âge, me demandant de rédiger pour vous un exposé sur les tâches de l'urbanisme. » Je précise parce que Le Corbusier est souvent taxé à juste titre d'affabulation, mais le double de ces lettres existe bien dans les archives. Ces lettres attendaient la réponse utile. La voici aujourd'hui. Mon livre, intitulé « Sur les quatre routes », livre d'avant-guerre, de guerre et d'après-guerre. Il s'agit d'un sujet qui traverse les incidents de la vie et les catastrophes. Il fait partie de la ligne d'une époque. C'est un argument qui reviendra toujours. Ce livre est très objectif et pourtant, il n'est point destiné aux professionnels. Il est comme le compagnon du foyer, puisqu'il ne vise qu'à instituer des foyers décents avec de la joie. Mais la publication dans une maison dotée d'un formidable effet de concentration de capital symbolique, comme diraient les sociologues, et sous la houlette d'un vrai éditeur exigeant, Paulhan, cette publication a un prix, celui de la réécriture. Et l'affaire prendra presque 2 ans, d'où la sortie en 1941. Il est vrai que la première note de lecture qu'avait rédigée Paulhan indique qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur le manuscrit. Les quatre routes sont celles de l'avion, du chemin de fer, de l'auto et du bateau. À leur rencontre, Le Corbusier demande que l'on bâtisse la cité radieuse. Il n'y a pas un instant à perdre. De la nature et de la construction de cette cité, Le Corbusier s'est expliqué ailleurs, entre parenthèses, d'ailleurs de façon assez confuse. Tantôt mémoire, tantôt essai, ce livre raconte plutôt les aventures de l'architecte qui a inventé la cité radieuse. Le ton est toujours sympathique, ardent, pressé. De fort belles pages sur Vézelay, mais que tout cela demeure incohérent, au petit bonheur, lâché. Les reproches de Paulhan sont justifiés. Le livre est le montage parfois hâtif d'idées consignées au fil des jours, dans les carnets qui ne quittent jamais les poches de l'architecte, d'articles antérieurs, d'un texte neuf mais écrit à la hâte. Certes, le manuscrit a finalement été amendé et émondé, mais il gardera ce caractère confus au petit bonheur d'un ouvrage fait de morceaux de genre variés dans un format de type littérature générale et sur un papier bouffant, quasiment dénué d'illustrations. Signalons que ce type de produit éditorial est d'un genre nouveau pour Le Corbusier et que s'il est lié à une économie de crise, pas de papier, il l'est aussi à l'intention de son auteur de déspécialiser son public. Et cette intention, Le Corbusier la poursuivra pendant toute sa vie. Cette année même, 1941, Gallimard remporte le prix Goncourt, ou du moins un auteur Gallimard remporte le prix Goncourt, avec un ouvrage de l'écrivain régionaliste, ce qui est un thème fort bienvenu à l'époque, Henri Pourrat, Vent de Mars, qui avait déjà été consacré par un livre que vous connaissez peut-être encore maintenant, « Vaillance, farce et aventure de Gaspard des Montagnes », sont des contes à l'usage des enfants. Cela dit, cette même année-là, le même Pourra publie chez un éditeur nettement plus sulfureux un petit opuscule qui s'appelle « Le paysan français ». Or, cette année-là, justement, Le Corbusier a deux chantiers en cours chez l'éditeur Sorlot. D'abord, un ouvrage qui aurait dû s'appeler « La ferme radieuse et le centre coopératif », qui d'ailleurs vient d'être publié donc de manière posthume. Et son sujet, vous vous en doutez, rejoint celui de Pourra et Rémi Boudou l'a signalé ce matin, la préoccupation de Vichy concernant l'aménagement des campagnes. D'ailleurs, Le Corbusier précise en couverture de ce projet « Contribution à l'aménagement des campagnes et à l'économie industrielle » et ajoute le slogan « Si l'on veut urbaniser les villes, il faut aménager les campagnes ». Le second projet qui sera publié de Le Corbusier est « Destin de Paris », à nouveau un petit ouvrage qui mêle illustration au trait et propose concernant la reconstruction de Paris à venir dans une perspective d'éradication, on en a parlé aussi ce matin, des îlots insalubres, mais aussi, actualité oblige, de défense aérienne. La quatrième de couverture de ce livre, qu'il me faut quand même reproduire, témoigne d'un voisinage éditorial peu glorieux, puisque vous voyez que des thèmes comme la race, la paysannerie, la famille, voisinent des auteurs comme le maréchal Pétain ou Walter Darré. Cette même année 1941, je l'ai déjà évoqué, un livre est publié chez Duneau, donc l'éditeur qui occupe une place certaine dans le paysage, sous le nom d'André Boll, qui est un journaliste plus connu pour ses critiques de théâtre et avec lequel Le Corbusier avait sympathisé à Vichy. Un rapt de manuscrits qui ne manquera pas d'offusquer Le Corbusier, puisqu'il indiquera sur l'exemplaire que Boll lui adresse « Ce livre a été dicté mot pour mot par moi en janvier 1941 à Vichy. » Boll fut chargé de lui enlever le caractère trop corbu par changement de mots ici ou là, ma dictée est dans les archives. Alors là, on retrouve à la fois une appréhension, voire une phobie de Le Corbusier d'être stigmatisé pour son ton, et par ailleurs, à nouveau, ce qu'on pourrait croire être une allégation, mais j'ai vérifié, le dactylogramme de ce texte, très très annoté par Le Corbusier, est bien dans les archives et il ressemble de manière parfaitement forte au livre publié. On ne vole que les riches. L'année 42 voit l'apparition de deux ouvrages très différents. D'abord, et je me suis fait voler la primeur par Yvan, et c'est pas la seule fois, la plaquette monographique « Les constructions Murandin » qui se revendique en couverture, comme vous pouvez le lire, comme manuel technique publié sous le patronage du secrétariat général de la jeunesse. Et cette vocation didactique est attestée, Yvan en a montré plus de figures, par les dessins précis, cotés et légendés qui se trouvent à l'intérieur. Le Corbusier précise que ce petit cadeau à mes amis les jeunes de France, fin de la citation, est un principe de. Donc il précise que c'est cela, et en fait il s'agit d'un principe de baraque provisoire pour le relogement des sinistrés, entre autres, et que ce projet se situe dans le fil des recherches qu'il mène depuis les années 20, et même avant avec la Maison Domino, pour la reconstruction et l'habitat social minimum. L'année précédente, les mêmes éditions Chiron, je suis désolée, ma reproduction est bien moins bonne que celle d'Yvan, avait donc publié un ouvrage un peu similaire, même si la forme en était plus classique, sur les techniques des constructions légères. Et ce qui m'a frappé moi, à la lecture, de manière beaucoup moins sérieuse que que mon prédécesseur. C'est le fait qu'elle est donc due à un architecte qui s'appelle Jacques Coëlle, qui est plus connu pour ses réalisations qui sont du type de celles que vous voyez maintenant à l'écran et qui donc n'ont plus vraiment à voir avec ses amours passées. Sur un registre qui est radicalement opposé, Le Corbusier signe chez Plon, avec son ami François de Pierrefeu, un ouvrage qui, là, a vraiment été rédigé à quatre mains. Le texte courant par Pierrefeu, les images par Le Corbusier, qui les légende très amplement, comme à son habitude. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à part cette planche qui dément l'idée que Le Corbusier ne s'intéresse ni à la manière dont vivent les gens, ni vraiment au logement, dans l'ensemble, l'ouvrage s'intéresse plus à l'échelle urbaine, voire territoriale, qu'à la maison. Cette aventure éditoriale chez Plon est renouvelée l'année suivante avec un ouvrage bien plus ambitieux, sinon dans sa forme, pardon, du moins dans son propos, qui d'ailleurs avait un peu inquiété le directeur Maurice Jourdel, le directeur des éditions, qui écrivait à Le Corbusier, qui une fois de plus vous laisse mêler de tout, « Votre idée d'un petit bloc carré et épais nous paraît irréalisable. Cela aura l'air de tout, sauf d'un livre. Or, nous vendons, et la librairie vend, du livre. » Ce livre, vous le savez, est aussi célèbre que controversé. Il est également très complexe dans sa genèse, mais comme ça m'emmènerait très très loin, je vais vous épargner ce passage de mon exposé. En fait, si Plon peut se permettre de publier des ouvrages au succès plus, disons, pas certain que tel La Maison des Hommes et La Charte d'Athènes, de ce côté-là, celui-ci, ça va bien marcher, c'est que la maison est relativement sereine quant à sa santé financière. Le directeur de Plon se réjouit, en effet, du succès de l'ouvrage de Georges Suarez, Le Maréchal Pétain, qui s'est déjà vendu à 96 000 exemplaires cette année-là. En outre, L'Homme, cet inconnu d'Alexis Carrel, qui était paru 7 ans plus tôt, continue à se vendre à plus de 5 000 exemplaires par mois. Il est de bon ton de fustiger le travail de Carrel, père de l'eugénisme, aujourd'hui, mais si l'on le remet dans le contexte, il faut se souvenir que cela faisait partie, ce livre, vraiment de la bibliothèque de tout honnête homme et que plus d'un million d'exemplaires ont été vendus avant, au cours du XXe siècle, en français seulement. Il y a eu beaucoup de traductions. Le Corbusier était un grand admirateur de Carrel. Il aurait voulu qu'il donne une préface sur les quatre routes, mais Pollan n'était pas du tout d'accord. Il a suggéré Jean Giraudoux, dont Le Corbusier était très proche, et passionné d'ailleurs de son livre Plein pouvoir. Et puis finalement, cette préface n'aura pu se faire que dans la Charte d'Athènes, puisque vous le voyez, c'est signalé en couverture. Cela dit, en 1942, il y a un grand succès de librairie, ce n'est pas encore la Charte d'Athènes, mais plutôt un gros crachat de 664 pages produit d'un cacographe maniaque, selon Charles Maurras. J'ai cité Les décombres de Lucien Rebattet, qui, selon Pascal Horry dans son livre Les collaborateurs, aurait été édité à plus de 100 000 exemplaires cette même année. Et pourtant, c'est bien chez De Noël que paraissent les trois ouvrages suivants de ou sur Le Corbusier. En 1943, Entretien avec les étudiants d'architecture. En 1944, la première monographie un peu sérieuse qui sera consacrée à l'architecte et qui est due au journaliste Maximilien Gauthier sous le titre « Le Corbusier ou l'architecture au service de l'homme ». Et en 1945, Les trois établissements humains, qui fixe une nouvelle étape de la doctrine urbanistique de l'architecture. Dans l'entretien avec les étudiants, dont Le Corbusier, comme pour tous ses ouvrages, prépare la maquette et notamment la couverture, une fois de plus, il faut préciser que ce titre n'a pas grand-chose à voir avec le genre annoncé dans le titre, puisqu'il s'agit d'un monologue, et que Le Corbusier ne s'adresse pas directement aux étudiants, puisqu'en fait, il pense que le travail didactique est plutôt mené dans son œuvre complète. Il y en a déjà 4 volumes publiés à cette époque-là, qui sont des ouvrages à l'italienne, essentiellement de plans et de photos, mais aussi de textes, qui sont publiés en Suisse et qui sont de nouveau devenus des best-sellers. Ce qu'on remarque, c'est que c'est la première fois qu'apparaît ce cycle, ce signal un peu binaire que vous voyez en deux faces qui se reflètent. C'est le sigle de Las Chorales où assembler des... Quand je ne retrouve plus mes notes, alors c'est toujours difficile de le faire de tête. Association, pardon, des constructeurs pour la rénovation architecturale qui réunissait des gens de bonne volonté, mais pas seulement des architectes. Et donc, c'était une structure qu'avait fondée, je crois, en 1943, Le Corbusier, et qui durera après la guerre, et qui sera même revendiquée dans les ouvrages de 50 et 55 sur le modular, pardon. Ce fameux sigle, on le retrouve sur la couverture en 1945 des 3 établissements humains. J'ai dit que c'était un ouvrage qui avait été co-signé par plusieurs auteurs. Et en 1946, je déborde un peu de mon champ parce que les livres sont vraiment totalement issus de la pensée de Le Corbusier pendant la guerre. Une image qui montre, dans une espèce de publicité, qui montre que pour Le Corbusier, le livre Plein pouvoir de Giraudoux, qui pourtant avait été rédigé de manière tout à fait autonome, fait directement partie de la série de ses propres travaux associés nouvellement à Las Chorales. Et donc, les ouvrages de 1946, qui au fond traitent toujours un peu du même sujet, constitue avec les ouvrages précédents une sorte de corps de doctrine concernant la reconstruction qui s'annonce et la position sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire de Le Corbusier. Alors, que faut-il retenir de ce petit parcours éditorial que je viens d'effectuer ? Il me semble que la dizaine de titres qui ont été publiés pendant la guerre par Le Corbusier indiquent qu'il est en train de procéder à une inflexion dans sa propre stratégie de promotion, promotion qui concerne d'ailleurs à la fois son œuvre, ses idées, mais lui-même en tant que personnage, et que cette promotion passe donc par le livre. On sait depuis toujours que l'imprimé est un outil de communication qu'il aura utilisé toute sa vie, avec une constance et aussi une maîtrise qu'aucun autre architecte du XXe siècle n'aura su mettre en œuvre. Cette inflexion, elle consiste à aborder dans des supports qui sont maintenant de type généraliste, Gallimard, De Noël, Plomb, et pour un public beaucoup plus ouvert, d'aborder donc des sujets que l'on pourrait dire de société, la reconstruction, l'aménagement du territoire, le confort du logement. Et cette inflexion lui permet en fait de négocier la transition entre sa production éditoriale d'avant-guerre et celle qu'il aura dans l'après-guerre. C'est-à-dire, au fond, le passage de la construction d'une doctrine disciplinaire à la justification d'une esthétique personnelle. La première période avant-guerre était plus centrée donc sur la discipline architecturale et sur sa position d'avant-garde. Ce faisant, il occupait une sorte de position de niche dans le marché de l'édition. En revanche, la seconde, dont témoignent aussi les nombreuses rééditions que je vous montre rapidement, nombreuses rééditions des ouvrages que je viens de vous décrire. Non, là, je vous les montre tous, mais maintenant, je vous montre les rééditions. Donc, cette stratégie de l'après-guerre, elle conforte, me semble-t-il, le statut que souhaite acquérir et qu'est en train d'acquérir d'ailleurs Le Corbusier, un statut d'artiste, de créateur protéiforme et à part entière, et parfois même de poète. Merci.